Ah, qu'il fait bon d'être ici ensemble, comme des frères et sœurs unis dans la recherche de Dieu, dans cette écoute et dans cette louange. Que la grâce de Dieu, que sa miséricorde et que sa paix soient données à chacune et chacun. Que ces réalités de la miséricorde, de la paix, de la grâce irriguent notre existence et nous ressuscitent maintenant. Alors, puisque nous sommes des ressuscités, c'est déjà fait, nous pouvons nous lever pour chanter le premier chant que vous trouverez au début du psautier dans le petit livret liturgique. Bénissons Dieu, le seul Seigneur.
C'est Suzanne qui nous permet de trouver les mots pour louer Dieu précisément.
Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour la terre sur laquelle tu nous as placés. Merci pour ta lumière qui nous éclaire. Merci pour Jésus que tu nous as donné. Merci pour la vie qui nous apporte. Merci pour ton amour de Père. Merci d'être là, Seigneur. Merci de m'écouter et de me prendre au sérieux. Merci de recevoir ces quelques mots où je te dis ma reconnaissance. Merci Seigneur.
Et nous poursuivons notre louange par le chant du psaume 98 dans le psautier français. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenons place et écoutons Cléa nous dire quelle est la volonté de Dieu à notre égard.
Les disciples de Dieu, Jésus, c'est le sel de la terre. Le sel, c'est salé, ça a un goût spécial. Ça se mélange à la soupe, ça lui donne du goût. Cela existerait-il un sel qui aurait le goût de l'eau ? Cela ne servirait à rien. Du sel comme ça, ce serait bon pour la poubelle. Les disciples de Jésus, nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. C'est Jésus qui le dit. Il ne faut pas avoir peu d'être différent à cause de Jésus, ni avoir peur d'être mélangé aux autres. On ne met pas la boîte à sel fermée dans la soupe. Peut-être que les chrétiens, entre leurs quatre murs, c'est comme une boîte à sel. Eh bien, il faut ouvrir la boîte.
Nous nous recueillons dans la prière avec Toscane.
Seigneur, Dieu, j'ai besoin de déposer ma vie devant toi. J'ai besoin que s'arrêtent mes excuses, car elles ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que se taisent les regrets et les inquiétudes, qu'ils ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds qui m'étouffe. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'enferment et avec les remords qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité et de ta bonté. Oh Dieu, j'ai besoin de toi.
Je vais maintenant avoir besoin d'Héloïse pour l'annonce du pardon.
Pardon. Dieu pose sur chacun de nous un regard d'amour, un regard de Père qui accueille notre repentance. Dieu nous invite à recevoir et à vivre avec lui tous les jours son pardon et son amour.
Vous pouvez prendre place. Alors j'accueille avec grande joie Matthieu. Bienvenue, vous avez demandé donc le baptême parmi nous ce matin. Alors vous êtes un étudiant en histoire, donc déjà c'est bien avancé, déjà dans ces études d'histoire. Et déjà les études d'histoire, ça ouvre l'esprit, effectivement. Et le fait de chercher Dieu, de lui faire une place dans votre vie, ça vous est venu tout seul. en entrant dans des églises, en admirant des vitraux, peut-être, l'atmosphère spirituelle des églises. Et puis, vous m'avez raconté qu'au cours d'un voyage en Grèce, dans un monastère orthodoxe, eh bien, vous avez senti le désir de vous ouvrir donc à la spiritualité, à la foi. Et puis, vous avez cherché, vous avez lu pas mal de pages de la Bible, et puis vous avez choisi de demander le baptême dans notre église. Alors je vous propose de me rejoindre devant ce baptistère. C'est un honneur et c'est une joie donc pour nous de vous avoir ce matin parmi nous. Alors c'est un baptême dans une église protestante, mais c'est plus largement un baptême chrétien, un baptême qui est dans l'église universelle, qui fait participer à cette large communauté de tous ceux qui cherchent Dieu en Christ, que ce soit dans l'église de l'oratoire, la plus géniale dans toutes les galaxies, mais aussi dans d'autres églises, dans tous les pays, il y a des chrétiens qui cherchent Dieu en Christ, partout. Alors ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous, en particulier, Matthieu. Avant que vous le cherchiez, avant que vous sachiez même son nom, eh bien déjà, il veillait sur vous, et rien ne vous privera de cet amour de Dieu pour vous, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir. Alors bravo pour tout ce chemin parcouru jusqu'à présent. Ce chemin est ouvert devant vous et Dieu vous y accompagne. Alors Matthieu, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui Matthieu, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel vous accompagne sur le chemin de votre vie. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur vous et vous fasse rayonner de lumière dans le monde qui vous entoure. Que l'Éternel lève son visage vers vous et vous donne la paix. Alors dans la liberté que Dieu nous donne d'entrer ou de ne pas entrer dans son alliance, aujourd'hui, Matthieu, vous répondez à ce Dieu qui vous appelle « mon enfant bien-aimé », vous lui répondez « en le reconnaissant comme Père que vous avez dans les cieux. » Et alors pour le préciser un petit peu, cette foi que vous avez, cette réponse à l'amour et à l'appel de Dieu, vous avez préparé une confession de foi. Alors cette confession de foi, chers frères et sœurs, chers amis, chers enfants des écoles bibliques du catéchisme, cette confession de foi, elle est toute courte, en trois phrases, où Matthieu dit l'essentiel de sa foi, et je suis convaincu que celui, que celle qui place cet essentiel au cœur même de son espérance et de sa démarche en sera illuminé. Alors je vais vous donner un micro pour que vous puissiez nous dire. Je vous propose de vous lever pour vous associer à cette confession de foi.
Au nom du Père, je reçois Dieu comme Père. Au nom du Fils, je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur. Au nom du Saint-Esprit, je désire m'engager dans le monde. Amen.
Merci beaucoup, Matthieu. À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors Matthieu, vous avez reçu donc le baptême, signe de l'amour que Dieu vous a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi, votre désir de vivre de ce que Dieu vous donne au jour le jour, à l'intérieur de vous-même. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne, de l'Église universelle. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et les augmente, les renouvelle jour après jour. Nous prions Dieu. Ô Éternel notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, directement au plus profond de nous-mêmes et aussi les uns par les autres à travers ce que d'autres peuvent témoigner de ce qu'ils ont reçu de toi. Quelque chose qui donne à notre cœur de pierre des frémissements de cœur de chair. Quelque chose qui nous donne un dynamisme, une créativité, des mains qui s'ouvrent, une bouche qui parle, un regard qui peut être tourné vers les autres. Alors notre Père, nous te remercions pour Matthieu que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui, fait que son témoignage rayonne autour de lui de la plus belle des façons. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Grand merci Matthieu. Aujourd'hui, avec les enfants des écoles bibliques, les jeunes, des catéchismes et puis leurs familles, nous aurons cet après-midi donc un thème sur un jeu biblique finalement portant sur les animaux. Alors je vous propose d'entendre dans la Bible l'histoire de Monsieur Job, qui observe de loin, j'espère pour lui en fait, un hippopotame et un crocodile. Alors jamais je n'aurais imaginé prendre comme thème de prédication l'hippopotame et le crocodile, mais bon, la Bible est comme ça, toujours très profonde, pleine de questionnements, mais souvent avec un discours surprenant. Alors donc c'est au chapitre 40 du livre de Job. L'Éternel me répondit à Job en ces mots. Le discutailleur va-t-il faire un procès au puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela? Voici l'hippopotame que j'ai formé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont comme des tubes de bronze. Ses ossatures comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Les montagnes lui fournissent sa pâture, là où se jouent tous les animaux de la campagne. Il se couche à l'ombre des lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. Le lotus le couvre de leur ombre, les saules du torrent l'environnent, et si les fleuves devenaient violents, il ne craint rien. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait tranquille. Est-ce que, quand il a les yeux ouverts, on pourra le saisir? Est-ce qu'on pourra le prendre au piège pour le percer au museau? Et puis voici le crocodile. Est-ce que tu le prendras à l'hameçon? Est-ce que tu pourras lier sa langue avec une corde? Est-ce que tu pourras mettre un roseau dans son museau? Est-ce que tu pourras percer sa mâchoire avec un crochet? Est-ce qu'il t'adressera de longues supplications? Est-ce qu'il te dira de douces paroles? Est-ce qu'il conclura une alliance avec toi? Est-ce que tu le prendras comme esclave pour toujours? Et joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? Est-ce que tu pourras l'attacher pour amuser les jeunes filles? Est-ce que des associés le mettront en vente? Le partageront-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau avec des épines et sa tête avec des harpons à poissons? Mets ta main sur lui. Au souvenir de ce combat, tu ne risques pas de recommencer. Alors pour laisser le temps à nous tous de méditer sur l'hippopotame et le crocodile, je vous propose de chanter ensemble le cantique 172 dans Louange et prière. Célébrons l'Éternel, notre Dieu, notre seul Père. Seigneur Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, car sinon, où puis-je aller? À qui m'adresser? Ô mon Dieu, je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de ta bénédiction. Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole que tu places au plus profond de moi. Quarante chapitres. Il ne faut pas moins de 40 chapitres que pour que Job arrête enfin de se croire au-dessus de Dieu et qu'il arrête de le rendre responsable du mal cruel qui lui arrive. 40 chapitres de débats avec des amis et il forme donc une sacrée bande de discutailleurs, comme le dit la traduction que je viens de vous lire, comme le dit ironiquement ce texte. Alors qu'est-ce qui finalement permet à Job d'en sortir ? C'est d'observer l'hippopotame et le crocodile que Dieu lui fait admirer. Parfois, il faut arrêter de discutailler pour observer quelques instants la réalité vraie. Elle est si belle et si complexe que bien des idées toutes faites, bien des idéologies se fendillent face à une observation un peu fine de la réalité toute simple qui est là, devant nos yeux. Bien des crises économiques, sociales, politiques, humaines sont verrouillées donc par des schémas tout faits, des idéologies qui sont en décalage en fait avec la complexité du réel. De même, bien des malentendus entre nous, entre personnes, sont dus à des schémas mentaux qui ne tiennent compte que d'une vision partielle, réductrice de la réalité, trop simple, passant à côté de ce que fait en fait la merveille de complexité. Et puis la difficulté de vivre dans ce monde, il est infiniment plus riche et changeant que ce que nous pouvons faire entrer dans de simples cases. Alors là, c'est l'hippopotame et le crocodile que l'on nous fait découvrir. Ailleurs, ce pourrait être un ornithorynque ou d'autres sortes de bêtes absolument incroyables et qui fait exploser les catégories des animaux. Alors la Bible adore discuter. En fait, elle nous invite à discuter, mais aussi à regarder le monde réel, regarder les personnes qui nous entourent dans leur complexité. Et c'est ce que le livre de Job nous invite à faire. 40 chapitres de débats passionnants, et puis ce passage que nous lisons aujourd'hui qui invite Job à arrêter de discutailler et puis de méditer face à la réalité devant l'hippopotame et le crocodile. De telles bêtes cassent tous les codes simplistes de ce que devrait être une bonne bête normale, utile, bien polie. efficace. Job contemple l'hippopotame et le crocodile. Et lui, le discutailleur, le rebelle, l'homme qui ne doute pas une seconde de son bon droit, Job reconnaît que tout n'est pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Le monde comprend une incroyable variété de formes de vie. Quelle imagination ! Chacun en son genre, l'hippopotame et le crocodile sont des bêtes formidables. L'un ne mange que de l'herbe, l'autre ne mange que de la viande. L'un est tout dodu, l'autre est tout plat. L'un est couvert d'écailles, l'autre a un cuir tout lisse. L'un a des centaines de dents et l'autre juste quelques-unes. Qui a raison, qui a tort ? La première complexité que découvre donc Job ici, c'est la variété de formes de vie, et chacune pourtant a son incroyable beauté et puis ses dangers aussi. Alors nous sommes habitués à notre environnement familier, tout semble aller aller de soi, et ça semble bien être réglé, rentrer dans des cases. Mais quand on ouvre les yeux sur le monde, sur un monde plus vaste, nous pouvons réapprendre à nous laisser surprendre. Alors à quoi est-ce que ça sert d'avoir créé une telle variété de formes de vie dans la nature ? Pourquoi des créatures aussi bizarres que l'hippopotame et le crocodile existent ? En tout cas, ça nous apprend l'incroyable créativité de Dieu et de la vie, en fait. Bien sûr, la théorie nous apprend que Dieu est créateur, on le sait, mais en méditant sur l'hippopotame et le crocodile, en méditant sur ce que nous observons dans le monde réel, nous pouvons saisir un petit peu qu'avec Dieu, on peut s'attendre à tout, en fait. Et qu'avec la vie, on peut s'attendre à bien des surprises. Alors, quand nous désespérons de trouver une issue, quand tout nous semble bloqué, quand il nous semble que nous n'avons plus aucune solution, eh bien, nous pouvons penser à l'hippopotame et au crocodile. Et nous pouvons saisir qu'il y a un million, en fait, de solutions possibles que nous n'avons même pas imaginées une seconde. Et les chercher, et puis peut-être s'attendre à tout. Cela aide à ne pas passer à côté des bonnes solutions, d'avoir ainsi une ouverture à large spectre. Des solutions peut-être complètement inouïes seront des bénédictions pour nous demain. Cela nous apprend aussi que nous pouvons peut-être nous trouver nous-mêmes bizarres par rapport à ce qui nous semble juste, bon et normal. Nous pouvons nous demander parfois à quoi nous servons. Mais jamais nous ne serons aussi étranges que l'hippopotame et le crocodile. L'Éternel apprend à Job à contempler et à admirer ces bêtes. C'est un peu apprendre à aimer la diversité des autres. Et puis c'est un peu commencer peut-être à aimer notre propre bizarrerie personnelle. Notre visage est heureusement particulier. Comme notre corps, comme notre personnalité, comme notre propre histoire, qu'est notre histoire. Alors avec tout ça, nous avons une place dans le monde au moins autant que l'hippopotame et le crocodile. Et tant pis pour les esprits purement pratiques qui voudraient des personnes standards comme dans un catalogue. Mais ça, c'est bon pour les théoriciens. L'Éternel emmène Job plus loin. La seconde complexité que découvre Job à ce spectacle de l'hippopotame et du crocodile, c'est que chacune de ces créatures sont à la fois merveilleuses, par certains côtés, improbables, elles sont aussi indomptables et parfois malfaisantes pour d'autres qui auraient par hasard mis le pied là où il ne faut pas. En particulier, l'hippopotame est présenté ici, dans cette description, comme merveilleux d'un côté et puis un peu ambigu de l'autre. Il est présenté comme une créature des marais, c'est-à-dire ni de la terre sèche ni de l'eau, en fait, comme les poissons. Il est présenté aussi comme une créature se mettant à l'ombre, se cachant. Et c'est vrai que l'hippopotame est souvent représenté, je ne sais pas si c'est vrai, dissimulé avec juste ses deux yeux qui dépassent et puis deux oreilles. Et ça apparaît juste entre les feuilles, alors qu'il y a une énorme bête qui est en dessous cachée. Alors, dans le contexte de la Bible, le fait que l'hippopotame soit ainsi un être mi-sec, mi-mouillé, mi-vu, mi-caché, ça fait de l'hippopotame un être dont la création n'est pas achevée. Parce que La création dans la Bible se fait de deux façons. Dieu injecte des idées toutes neuves, des choses jamais vues, et l'hippopotame et le crocodile en sont des échantillons. Mais Dieu crée aussi en distinguant les choses. La lumière et les ténèbres, ce n'est pas la même chose. Le sec et le mouillé, ce n'est pas la même chose. Il distingue aussi les eaux d'en haut, dans les cieux, et puis les eaux d'en bas qui sont là, qui sont au niveau du sol et en profondeur. L'hippopotame, lui, il est un peu dans tous ces mondes-là, l'ombre, les ténèbres, le sec, le mouillé. Et donc le texte nous dit que nous sommes comme lui. C'est même la première chose que le texte dit. Voici l'hippopotame que j'ai formé comme toi. Et donc à l'occasion de l'observation de l'hippopotame, nous pouvons découvrir que le monde est comme lui, inachevé, entre deux rives, entre deux eaux finalement. Alors c'est source de souffrance et de danger dans ce monde. Il faut donc discerner, il faut donc ne pas confondre ce qui est mêlé. Des fois c'est quelque chose qui est génial et puis aussi quelque chose qui est sauvage en fait, dans le même être brut. Voir ce qui est incréé dans le monde, ce qui est incréé en nous et comment Dieu y travaille. C'est pourquoi bien des commentateurs de ce texte y voient plus que la simple description d'un hippopotame et d'un crocodile. Ils y voient une notion, une caractéristique de ce monde où nous sommes inachevés, à la fois merveilleux et dangereux, et puis encore un peu en attente d'évolution, de faire le tri finalement. Alors pour parler de cette réalité que nous fait découvrir l'observation de l'hippopotame, souvent les théologiens, les philosophes gardent le nom hébreu, Béhémoth, ce qu'évoque le crocodile aussi dans la suite du texte, ils l'appellent souvent du nom de Léviathan. Formidable, lui aussi. Alors, par notre côté, Béhémoth, nous sommes une création déjà géniale, mais avec pas mal de travail encore à faire pour la rendre parfaite. C'est facile de le noter. Nous sommes ainsi, et l'humanité est ainsi, dans ce marais de l'entre-deux, un pied dans le chaos, dans la sauvagerie, et pourtant déjà, nous dit le texte, nous sommes la tête de la création, le commencement des chemins de Dieu. En nous s'agite aussi quelque chose du formidable Léviathan que permet de découvrir l'observation du crocodile. Alors, qu'évoque-t-il le Léviathan ? Lui, il n'est pas un être mitigé dans cette description, mi-génial, mi-chaos, comme l'hippopotame, comme le Béhémoth. On reconnaît dans cette description que donne le livre de Job, on reconnaît un crocodile à sa bouche formidable, pleine de dents, à son cuir invincible, plein de piquants. Mais si l'on regarde de près la description qui nous est donnée ici du crocodile, ce crocodile Léviathan a quelque chose en fait du Saint-Esprit ou de la parole de Dieu. Alors peut-être que c'est la méditation sur la grande bouche du crocodile qui leur a fait penser à quelque chose comme une source de la parole de Dieu, je ne sais pas. En tout cas, comme le crocodile, la parole de Dieu ou le souffle de Dieu est impossible à dompter, c'est plus fort que nous. Alors qu'apporte l'observation du Léviathan ? Dans ce texte, on voit ce que ça apporte, c'est plein de questions, toute une série de questions, comme souvent avec la parole de Dieu en fait, qui nous pose plus de questionnements, plus de surprises que ça ne nous apporte de réponses. Et heureusement, parce que les réponses nous bloquent, alors qu'un juste questionnement, alors que des idées nouvelles, ça nous met en route, ça nous fait avancer. Et donc ça participe à notre évolution. La parole de Dieu est comme ça, tantôt pleine de tendresse, tantôt d'une force immense, comme ce qu'évoquent les paroles, les questionnements face au crocodile dans ce texte. Une parole qui parfois nous dit nos quatre vérités, et puis parfois une parole qui n'a pas peur de se placer en dessous de nous, nous dit ce texte, pour nous supplier. Une parole pleine de tendresse parfois, une parole qui fait alliance peut-être, comme Dieu le fait si souvent avec celui qu'il aime. Et donc le Léviathan, c'est une figure de ce qu'apporte Dieu. Plein d'idées neuves et plein de questions qui brisent nos certitudes toutes faites, nos schémas tout faits, et nous permettent d'un peu moins tout mélanger et d'y voir plus clair. Alors Job se rend bien compte qu'il est impossible de mettre la main sur le crocodile, sinon on risque de s'en souvenir, parce qu'effectivement ce serait comme vouloir emprisonner l'Esprit-Saint ou alors essayer de saisir le souffle créateur de Dieu. Que ce soit la brise légère ou que ce soit l'ouragan, c'est bien difficile de l'attraper avec ses mains. Là aussi, l'observation de la nature, du monde réel, nous permet de méditer sur l'être même de Dieu. Alors il existe dans notre petite personne et dans l'humanité quelque chose du Béhémoth et quelque chose du Léviathan en fait. À la fois un chef-d'œuvre en cours d'élaboration et puis le souffle de créativité de Dieu qui travaille avec et dans ce chantier que nous sommes et qu'est notre monde. Alors quand on regarde le monde, nous pouvons observer ses merveilles, nous pouvons aussi observer le chaos qui subsiste. Et nous pouvons observer le souffle de l'esprit qui travaille là-dedans, et tout cela, ces réalités sont aussi manifestes, aussi énormes et formidables que sont une bande d'hippopotames et de crocodiles dans le Nil. Alors celui qui ne voit pas ces réalités risque gros, comme si on n'avait pas remarqué qu'il y avait des crocodiles et un hippopotame avant de se promener là tranquillement, de faire sa baignade, de se promener en pirogue ou d'emprunter le bord, le pique-niquer sur le bord de l'eau. Alors nous sentons, comme Job ici, palpiter en nous ces deux réalités formidables que sont le Béhémoth et le Léviathan. Et cela nous invite à vivre cette complexité avec fierté, mais aussi avec humilité, avec disponibilité, avec sagesse et avec ouverture à l'action de Dieu qui tente de nous faire évoluer et de nous rendre moins sauvages, et puis aussi de nous donner part pour être un peu ce Léviathan qui crée le monde. Alors que faisons-nous de cette complexité? Tout est fait par Dieu pour que ça se passe pas si mal que ça en fait, surprenant, d'une manière surprenante. Affrontant le chaos, parfois avec peine bien sûr, parce que c'est jamais facile, c'est source de mal, mais aussi avec confiance, et puis avec efficacité grâce à l'Esprit de Dieu qui nous est donné. Mais comme avec tout outil puissant, il y a un danger, le danger du Léviathan. Et puis comme tout équilibre complexe, il y a risque de basculer et donc que l'hippopotame coule dans le chaos. Alors comment choisir? Faut-il choisir entre Béhémoth et Léviathan? Le philosophe Hobbes, par exemple, a écrit tout un livre sur le Léviathan, un livre sur le Béhémoth aussi. Il privilégie le Léviathan, lui. Parce qu'il lui semble que le Béhémoth semble mener au chaos, finalement. Il redoute que si chacun pense à sa façon, comme nous sommes des êtres mitigés, si nous interprétons chacun la Bible librement, nous allons penser n'importe quoi, et ça va être le chaos. Encore plus, il craint que tout le monde puisse se dire prophète, c'est-à-dire avoir le souffle de Dieu en soi, animé par ce souffle. Effectivement, il y a le risque qu'il y ait tellement de points de vue différents que finalement la société éclate et que cela tourne à la guerre civile comme du temps des guerres de religion dans notre quartier de l'Oratoire du Louvre. Ou bien au XVIe siècle quand même. Ou que chacun n'en fasse qu'à sa tête, se serve sans rien payer, ou bien passe au feu rouge ou roule sur l'autoroute dans le mauvais sens en pensant que c'est son idée, qu'il a bien le droit d'avoir sa propre idée, qu'on est en démocratie après tout. Alors pour créer une société vivable, il faut quand même suffisamment de souffle commun, il faut suffisamment de Léviathan, on est d'accord? Sinon le chaos l'emporte et l'hippopotame ne va pas faire de long feu non plus. À l'inverse, le philosophe Milton, par exemple, pencherait plus pour privilégier peut-être le Béhémoth. Il est pour la diversité des interprétations, pour la liberté, et il dit qu'il y a quelque chose de tyrannique, d'insupportable à vouloir unifier la pensée sous un seul et même Léviathan. Alors effectivement, il y a le risque qu'une seule personne ou une seule institution prétende détenir la vérité pleine et entière, comme s'il était Dieu lui-même, et considère tous les autres comme de simples hippopotames, juste bons à brouter le fond de la rivière. Ce n'est jamais bon, en fait, que personne se prenne soi-même pour Dieu. C'est tout simplement le péché fondamental décrit avec Adam et Ève. Mais effectivement, ce n'est pas si facile de gérer ce monde où chacun de nous est ce Béhémoth génial par certains côtés, mais aussi sauvage et chaotique par d'autres. Et donc l'Esprit de Dieu, il va travailler avec et sur ces deux réalités qui sont en nous. pour commencer à dompter ce qui est sauvage en nous, peut-être aussi pour mobiliser notre meilleure part qui peut alors apporter au monde et à la collectivité un service unique et irremplaçable. Il est par conséquent essentiel qu'en chaque personne, ce soit le Léviathan qui règne sur le Béhémoth, bien sûr, que notre crocodile l'emporte sur les deux côtés de notre hippopotame. Mais toute évolution prend du temps, et en attendant que nous soyons devenus parfaits, que nous soyons devenus le Christ, presque, comment faire ? Comment vivre les uns avec les autres ? Alors le propre de ce qui est sauvage en chaque personne, c'est de jouer au crocodile pour se prendre pour Dieu et penser détenir à soi-même la vérité, trouvant tout à fait juste, normal, en toute bonne foi, d'imposer sa vérité aux autres, les mordant, les dévorant comme un crocodile ordinaire le fait tous les jours. Alors le souffle de Dieu est alors bien loin, égard aux hippopotames. Comment résoudre alors cette équation délicate, laissant le souffle de Dieu se manifester en chacun, sans pour autant que nous nous dévorions les uns les autres? Alors pour ce qui est de la société, et c'est cette société quand même qui permet justement de nous réunir et puis de réfléchir tranquillement, de prier Dieu tranquillement, tout l'art de ce jeu infiniment complexe de notre fonctionnement démocratique qui a été enfanté en réalité par ces débats au siècle des Lumières entre Hobbes, Milton, Bell, Kant, Rousseau, Voltaire et bien d'autres, nourris en particulier par leur méditation sur l'hippopotame et le crocodile de Job, sur Léviathan et Béhémoth et sur bien d'autres choses, pour essayer de trouver la combinaison finalement entre la liberté individuelle et la recherche de la juste loi qui s'imposera à tous et qui permettra de vivre ensemble. Mais cet équilibre est sans cesse à réinventer finalement et à vivre. La structure même du livre de Job nous propose comme méthode pour réfléchir à cela et arriver à le vivre, de prendre d'abord 40 chapitres de débats entre nous. Débats qui semblent un peu vains, certes, mais qui laissent dialoguer nos plaintes, nos raisonnements, notre philosophie, notre foi, notre humilité et notre sagesse. Et puis de laisser le temps aussi à l'expérience, confrontant alors nos belles théories, nos débats, nos théories du monde réel, afin qu'elles apprennent qu'elles ne sont pas la vérité du bon Dieu. Prendre le temps de s'asseoir sur le bord du fleuve et regarder, méditer sur les crocodiles, sur les hippopotames et sur peut-être quelque autre chose, et écouter la voix de Dieu qui nous explique ce qu'il en est. Après avoir ainsi médité, Job répondra à Dieu dans le chapitre suivant « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant c'est mon œil qui t'a vu. » Alors il dit ça après avoir contemplé le crocodile et l'hippopotame. C'est-à-dire qu'il a maintenant une connaissance empirique de la vie et de sa source de vie qu'est Dieu, et non plus seulement une connaissance théorique. Et cela affine considérablement la découverte de Dieu et du monde et de leur fonctionnement réciproque. Cela aide à reconnaître dans ce monde et en nous-mêmes ce qui pourrait être divin et ce qui mérite d'être éveillé, écouté, libéré, et de discerner entre les deux finalement, et de démasquer ce qui est sauvage et ce qui se prend pour Dieu et qu'il ne l'est pas en réalité. Alors comment s'en rendre maître de cette partie sauvage ? Il ne faut surtout pas la tuer en fait, mais la domestiquer bien sûr. La méditation de Job est pleine de respect et de miséricorde pour ce qui est sauvage dans l'hippopotame, dans notre hippopotame. Car, nous dit-il, là est le commencement des chemins de Dieu, de celui qui l'a fait, Dieu, et celui qui fait avancer son épée vers l'hippopotame. L'épée de sa parole, bien sûr, puisque c'est une image souvent qu'on connaît dans la Bible. Cette épée est celle qui tranche, non pas les têtes, mais entre les nuances de bien et de mal, entre le sec et le mouillé. Oui, la parole qui assainit nos marécages en faisant souffler un esprit de vie. Amen. Alors, grand merci à Jean-Dominique Pasquet pour cette belle méditation à l'orgue. Et je vous propose de poursuivre avec le cantique 343, donc dans notre petit recueil Louanges et prières. Seigneur, accorde-moi d'aimer, il faut bien que ta main m'y pousse. Vous pouvez prendre place. Alors, je vais passer la parole donc à Elias Schaeffer, donc, qui va nous parler d'un rassemblement national qui est préparé donc, pour tous les jeunes protestants de France et de Navarre. Et vous êtes plusieurs à y partir cet été. Je crois qu'il y a encore des places.
Nous sommes plusieurs catéchumènes de dernière année qui avons fait la confirmation à nous rendre au Grand Kiff cet été du 24 au 28 juillet à Saint-Malo. Nous serions heureux de ne pas être les seuls de l'oratoire. Pour cela, nous espérons être rejoints par d'autres qui ont entre 15 et 20 ans pour vivre ces 5 jours autour du thème « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Cette question de Jésus, nous y répondrons à travers des ateliers bibliques, l'écoute d'une centaine de témoins, une nuit de cinéma, une nuit de la musique, un temps festif sur une des plages de Saint-Malo, après un après-midi de création artistique ou de rencontres de divers acteurs de la diaconie. Des grands jeux et des temps de rencontres sont aussi au programme, avec les autres participants qui viendront de toute la France, mais aussi d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine. Alors ne tardez pas à vous inscrire, le site d'inscription fermera le 10 juillet. Et puis pour les 18-30 ans, vous pouvez aussi vous inscrire, mais à l'Alter Kiff, 15 jours à Saint-Malo pour nous préparer et animer le Grand Kiff, nous accueillir, s'occuper de la communication avec une équipe de professionnels, rejoindre l'équipe de préparation des repas. Pour venir au Grand Kiff, des bus partiront de Paris, le voyage aller-retour est à 40 euros. Pour s'inscrire au bus, il faut contacter Isabelle Hervé, animatrice régionale jeunesse. J'ai avec moi des tracts, donc voilà. Pour le Grand Kiff et aussi pour l'Alter Kiff, n'hésitez pas à me les demander à la fin du culte.
Merci beaucoup, Elia. Et donc, il y a aussi Isabelle Hervé qui fait coucou avec la main, qui est donc une pasteur qui est responsable pour la région parisienne et bien de l'organisation aussi. Donc, merci à Elia de nous motiver pour aller à ce rassemblement. Moi, on connaît donc des jeunes qui sont allés dans la précédente édition et qui en sont revenus tout à fait enthousiasmés. Alors aujourd'hui, il y a un temps d'accueil à la sortie, comme les deuxième et quatrième dimanches du mois. Alors ça se passe derrière la grande porte. Si vous avez quelques moments, c'est l'occasion de se rencontrer, de parler un peu. Puis grand merci aux personnes qui le préparent, ces temps d'accueil. Vous pouvez éventuellement leur proposer de les aider de temps à autre ou bien de vous engager pour divers services dans l'oratoire. C'est comme ça que marche c'est une église comme la nôtre. À la sortie de ce culte, vous avez aussi des éclaireurs qui ont préparé des gâteaux. C'est la patrouille des léopards qui ont préparé des gâteaux, et ça permet aussi le financement donc, pour leur matériel de patrouille. Nous sommes la dernière journée de l'éducation biblique de l'année. À cette occasion-là, nous avons souvent donc, un jeu. Nous sommes avec les familles, nous irons, j'espère, pique-niquer peut-être aux Tuileries, je ne sais pas. Il faut voir le temps qu'il fait, c'est assez changeant. Ensuite, nous aurons un jeu pendant l'après-midi et nous nous retrouverons pour un grand goûter en face. Mardi prochain, à 14h30, aux 4 rues de l'Oratoire, James Woody va animer donc, la dernière des études bibliques qu'il a proposées cette année autour des psaumes, avec les psaumes 130 à 134, « Entendre Dieu ». Mardi soir, à 19h30, il y a aussi donc, le groupe d'étudiants et jeunes actifs qui se retrouvent autour d'un repas partagé aux 4 rues de l'Oratoire. Dimanche prochain, le culte sera animé par le professeur Élian Cuvillier, professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie de Montpellier. Et puis il y aura aussi dimanche après-midi prochain, donc à 16h, ici même, un concert de Notre Cœur de l'Oratoire, donc la petite messe solennelle de Rossini, qui est en fait une œuvre tout à fait sympa. Et alors vous pourrez acheter des billets à la FNAC ou directement avant le concert. Alors dimanche 26, le dimanche d'après, ça sera le dernier culte par James Woody comme pasteur à l'oratoire, et c'est le jour où l'oratoire a choisi tout particulièrement de l'entourer, lui et sa famille, pour leur dire particulièrement au revoir. Alors nous avons constitué ensemble, James et moi, un binôme avec bien des activités ensemble, et ça a été un vrai régal, que ce soit avec les adultes, les jeunes, les enfants, et donc c'est un grand regret pour moi. Et puis pour l'oratoire, que je vois James partir vers d'autres cieux. Donc j'ai compté, nous avons fait ensemble 86 groupes d'initiation à la théologie pour adultes, 56 approfondissements théologiques, 140 rencontres autour de l'éducation biblique, réunions de moniteurs, des dizaines de réunions d'étudiants, de lycéens, soit au total pas moins de 333 réunions avec James, en équipe, et puis j'ai écouté avec joie et intérêt 120 prédications de James, et c'est parmi les prédications qui m'ont le plus apporté. Alors ça fait que chacun de nous deux, je pense que nous pourrions finir les phrases de l'autre, je pense. Alors malheureusement, c'était pour moi le dernier culte que j'ai partagé avec James, puisque chaque année, je suis en Corée à partir du 15-20 juin jusqu'au 15-20 juillet. C'est même pour ça que c'est toujours James qui fait les cultes de fin juin et puis de juillet. Mais là, au mois de juillet, ça sera donc Regina, d'abord Gilles Castel, Laurent Gagnebin, puis Regina Muller qui assureront l'intérim. Alors je penserai bien à James, à la famille Woody, Sacha, Clara, Sophie, Charlotte, le 26 juin. Mais je pense que ça sera bien plus souvent en fait que j'y penserai à lui au cours de l'année prochaine, chaque fois que je pourrai plus compter sur lui, sur son érudition, son travail, mais aussi son humour, son œil pétillant. Alors c'est triste de le voir partir pour nous, pour moi, pour l'oratoire, puisqu'ensemble je pense qu'il y avait une bonne dynamique finalement. Mais c'est normal qu'un pasteur choisisse de changer de poste au bout de quelques années, même si à chaque fois c'est triste pour tout le monde. En tout cas, nous souhaitons plein de bonnes choses au Woody à Montpellier et puis plein de bonnes choses à l'oratoire pour la suite. En tout cas, on va essayer tous ensemble avec le conseil presbytéral et avec vous tous, les bénévoles. Donc, nous pouvons maintenant donner les moyens justement à l'oratoire de poursuivre sa mission et puis aussi que notre offrande soit un signe de louange, de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Et puis le fait de pouvoir se retrouver ensemble, voilà, pour nous tourner vers lui. Nous prions Dieu. Seigneur, ma prière est aujourd'hui pour que la paix grandisse sur cette terre, pour que chaque homme, chaque femme, chaque enfant soit respecté dans sa conscience, dans ses convictions, dans sa dignité, non seulement par les puissants, mais aussi par nous-mêmes, là où nous sommes. Et pour cela, Éternel notre Dieu, donne-nous ton esprit, source de paix. Et puis Seigneur, nous te prions pour cette planète, ses habitants de tout poil, plumes ou écailles, pour ses océans, ses végétaux, ses merveilles et son avenir. Et pour cela, donne-nous ton esprit, source de vie, pour que nous y soyons créateurs. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, quelle que soit leur souffrance, pour ceux qui sont tourmentés, qui sont effrayés ou qui sont tristes. Tu nous as dit par ton Fils Jésus-Christ, « Je vous donne ma paix ». Oui, fais de nous des bâtisseurs de paix. Et puis unis avec tous les autres êtres humains en qui nous reconnaissons, grâce à toi, des frères et des sœurs, nous te prions avec la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction qui nous est donnée par Dieu directement au plus profond de notre être. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et t'accorde sa paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacune et chacun, ô Dieu sauveur.